France Inter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Nous sommes à vos côtés tous les jours de 10h à 11h en direct sur France Inter. La ruelle est étroite, les maisons aussi, les rayons du soleil s'incrustent à peine, sauf sur la petite place du village, là où se trouve le centre culturel et la bibliothèque. La ruelle est étroite et offre aux enfants un terrain de jeu pour vélo et patins à roulettes. En face, il y a Madame Castro qui adore cuisiner les haricots œil noir. Au-dessus résonnent parfois des cris et à côté, le monsieur qui ne parle pas français fume sa cigarette devant la porte d'entrée. Et le voisin d'à côté adore garer son scooter dans la ruelle étroite. C'est un bout de chez moi, de mon quartier, c'était il y a quelques années. Depuis, les enfants ont disparu de la ruelle, les voisins ont changé, mais le linge pend toujours aux fenêtres. Et vous, à quoi ressemble votre vie de quartier aujourd'hui? Êtes-vous attaché à cet espace? On attend vos témoignages au 01 45 24 7000, vos courriels et notes vocales sur l'application de Radio France. Et vous pouvez également nous laisser un message sur la page Facebook ou sur WhatsApp. Nous sommes le jeudi 10 juillet, vous écoutez France Inter. Grand bien vous fasse, c'est aussi l'été.
France Inter. Grand bien vous fasse. Eva Rock.
C'est un quartier où on s'habitue très facilement, tu comprends, c'est un village plutôt. Ici tout le monde se connaît, moi tout le monde m'appelle Pierrot. Et puis alors on trouve quand même beaucoup d'entraide, on trouve, je ne sais pas, tout le monde se penche un peu sur le problème des autres. C'est vraiment le village dans Paris. Et ça n'a rien à voir avec d'autres quartiers et c'est vraiment quelque chose de formidable parce qu'on s'y attache comme on s'attache à son clocher.
Extrait d'une archive de 1972 dans le quartier Aligre à Paris. Le témoignage de ce monsieur annonce en grande partie ce que sera cette émission où il sera question donc de quartiers, de banlieue, d'intime, d'identité, de transformation, de reconstruction. Et en studio, trois invités. Bonjour Constance Rivière.
Bonjour.
Je suis très heureuse de vous recevoir. Vous êtes la directrice générale du Palais de la Porte Dorée où se tient actuellement au Musée National de l'Histoire de l'Immigration une exposition remarquable intitulée « Banlieue chérie », une expo sur toutes les banlieues de France, une exposition constituée de 200 œuvres, peintures, sculptures, installations, musique, films, maquettes, archives et photos, des photographies et notamment des photos de notre deuxième invité. Bonjour Marvin Bonheur.
Bonjour.
Photographe, donc, vous avez gagné et vous avez grandi surtout dans le 9-3, comme on dit, en Seine-Saint-Denis. Et votre travail évoque principalement les quartiers populaires du monde, pas seulement du 93. Et face à vous, un romancier. Bonjour Adrien Bels.
Bonjour.
Auteur de 5 dans tes yeux, prix littéraire, alors on ne le fait pas exprès, prix littéraire de la Porte Dorée. On revient toujours à la Porte Dorée, Constance Rivière. Vous êtes aussi l'auteur de Sibylla Blanche est co-auteur d'un ouvrage, enfin vous avez participé à un ouvrage collectif, pardon, Le Retour du Roi Djibril, 3 livres publiés à l'Iconoclaste et vous êtes Marseillais. Permettez-moi d'avoir une pensée d'ailleurs pour tous les Marseillais et Marseillaises victimes des incendies depuis 3 jours et pour les sapeurs-pompiers qui ont combattu le feu et qui combattent encore aujourd'hui. À vous trois, une première question personnelle si vous me le permettez, mais à quoi ressemble le quartier auquel vous êtes le plus attaché et à quelle période de votre vie correspond-il, Marvin Bonheur? C'est ce quartier du 93?
Oui, complètement. Ouais. Moi, ce serait le quartier des 3000, la Rose des Vents à Aulnay-sous-Bois. Et pour la période, ce serait l'adolescence. Je dirais entre mes 12 ans jusqu'à mes 17 ans, on va dire. Toute cette période-là était magnifique.
Et avant vos 12 ans, vous étiez dans quel quartier?
J'étais déjà à Aulnay-sous-Bois, d'accord, mais beaucoup plus jeune. Et j'ai aussi grandi à Bondy Nord, dans un quartier qu'on appelle le Bleu. Et à Aubervilliers, tout près de la Maladrerie, qui est un quartier très connu pour son architecture.
D'accord, mais c'est celui de l'adolescence qui est le plus marquant.
C'est celui où j'ai le plus de souvenirs, où je me suis le plus construit, je pense, de souvenirs positifs.
Constance Rivière?
Moi, j'ai toujours habité dans le 18e arrondissement à Paris, d'un endroit à un autre, dans un triangle entre Anvers, Barbès et la Marcolincourt. Et j'ai l'impression que le moment le plus fort, c'est quand j'y suis revenue en réalité. Je suis partie pour mes études quelques années, je suis revenue m'installer dans mon quartier où j'ai retrouvé mon père à un endroit, ma mère à un autre, mon frère encore à un autre. Et puis des amis que je recroisais avec toutes ces vies qu'on retrouve. Et ça a été très heureux.
Oui, c'est souvent important les retrouvailles avec un quartier quand on revient dans la ville de notre enfance, généralement, et dans ce quartier. Et vous, Adrien Bels, quel est le quartier?
Moi, c'est pas très difficile. Moi, c'est le quartier du Panier à Marseille.
Ouais.
Le Panier des années 90, quartier emblématique marseillais. qui est devenu un peu une vitrine touristique aujourd'hui. Hein. C'est un peu le plus bel la vie.
On va en reparler, voilà. Ouais, bien sûr.
Voilà, dans les années 90, c'est un quartier de place, avec plein de places différentes, avec plein d'ambiances différentes. C'est un quartier avec une très forte communauté comorienne, des gens d'origine algérienne, des sans-papiers aussi. Et c'est un quartier aussi emblématique parce que ça a été le terreau du rap marseillais avec des groupes comme la Funky Family. C'est là-bas que Ayam tourne comme un aimant. Donc voilà, c'est un quartier fort. Et puis c'est aussi le quartier de la French Connection. Voilà, c'est un quartier. Il y a tout. Il y a beaucoup d'histoires à raconter dans ce quartier.
Ce que vous faites dans vos romans. Vous avez en partie répondu à la question que je voulais vous poser par la suite. Mais qu'est-ce qui fait quartier pour vous? Quand on parle de quartier, qu'est-ce qu'il faut comme élément, en fait?
Le quartier, pour moi, c'est des histoires, c'est une mémoire. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à écrire 5 dans tes yeux, c'était vraiment pour à la fois me rappeler de mon quartier, mais aussi ne pas l'oublier et le faire ressortir de terre.
Ouais.
Dire, voilà, le quartier, il a été ça à un moment donné. Donc, c'est vraiment... Pour moi, c'est ça, c'est une mémoire, c'est une famille. On l'a vu dans l'extrait que vous avez passé, le petit vieux qui est en bas de sa porte, qui te raconte ses problèmes de santé, le voisin qui met sa voiture dans la rue et qui emmerde tout le monde, mais qui ne veut pas payer EDF. Et tous ces gens, en fait, il y a de tout dans un quartier. Il y a le méchant, il y a la gentille, il y a celui qui vote comme on n'a pas envie qu'il vote. Et c'est comme une famille... Et cette famille, elle se mélange, elle crée une langue, elle crée un langage, et elle crée une histoire. Et voilà, ce que je raconte, c'est la gentrification d'un quartier. Donc, c'est comment ça se passe quand on coupe une histoire, quand on coupe une mémoire. Voilà.
On va y revenir parce que c'est aussi des questions d'identité et des questions de l'intime qui sont posées derrière tout ça. Constance Rivière, qu'est-ce qui fait quartier pour vous?
Franchement, après cette phrase, le quartier, c'est une mémoire, je ne sais rien dire d'autre, parce que je pense que c'est ce qui dit le mieux le rapport vivant qu'on a à un territoire en réalité. Et c'est ça qui est fondamental, c'est pas le quartier comme urbanisme, et souvent on le résume à des images qui sont des images où il n'y a pas de vie.
Ouais.
Et le quartier, en réalité, c'est tous les fils de vie qui se sont sédimentés et qui ont construit une histoire, des histoires joyeuses, des histoires d'amour, des histoires de séparation... Et c'est ces traces-là, en réalité, qui sont les plus importantes.
Ce que vous racontez, Marvin Bonheur, à travers vos photos aussi. Hein.
Complètement, ouais. C'est pour ça que je me reconnais très bien dans ces paroles-là, justement, quand on parle de souvenirs et de mémoire.
Ouais.
Et je rajouterais, personnellement, je dis souvent l'humain, puisque c'est ce qui apporte justement beaucoup ces souvenirs et cette mémoire. Et moi, ce que je mets en avant le plus quand on parle de quartier, c'est sa population. Parce que je pense que c'est vraiment celle qui va déterminer l'âme même du quartier, ce qui va en faire un quartier positif ou négatif, fréquentable ou pas, mais qui va vraiment créer un peu cette dynamique de quartier, c'est vraiment les habitants. Donc c'est ce qui est le plus important, ce qui me vient tout de suite en tête quand on parle de quartier.
J'ai cru comprendre qu'à un moment donné, vous l'aviez quitté, ce quartier du 9-3, pour venir vivre à Paris. Mmh. Et puis vous êtes revenu avec votre appareil photo dans le 93. Mmh. C'est un peu ce que disait Adrien Bess à un instant, c'est-à-dire qu'il fallait vous approprier ce quartier, vous donner votre regard à vous et pas le laisser à quelqu'un qui ne connaîtrait pas cette histoire-là.
Complètement, bah, c'est marrant parce que je me suis vraiment eu l'impression de m'entendre parler en fait, mais vraiment j'ai eu ce sentiment en quittant mon quartier que j'ai rêvé de quitter pendant très longtemps dans mon adolescence, ce rêve de jeune de cité qui se dit que Paris c'est mieux, que voilà, le rêve d'opportunité, etc. Et en fait il m'a fallu un an pour avoir cette nostalgie et de revenir dans mon quartier que je fréquentais encore parce que mes parents y vivaient et encore beaucoup de mes amis y étaient. Et en fait, le fait d'y retourner le week-end et d'y passer, d'être en dehors la semaine, c'est vrai que j'ai eu une vraie prise de conscience de tout ce point justement du langage qui avait changé, ces codes vestimentaires qui n'étaient plus les mêmes, etc. Et j'ai eu un sentiment un peu de me perdre et aussi de perdre petit à petit ces souvenirs de mon enfance.
D'où le travail photographique en fait.
D'où le travail photographique.
Que vous avez appelé Alzheimer d'ailleurs, la première partie. Hein,
ouais. C'est vraiment la raison pour laquelle je l'ai appelé Alzheimer, c'est que j'ai pris conscience durant cette année de photographie, enfin ces 4 années de photographie, l'importance des souvenirs et la violence aussi que ça peut être de devenir un adulte qui tourne le dos à toute son enfance qui finalement nous a construit finalement. Et c'est vraiment là que j'ai compris que mon quartier avait une place hyper importante dans la personne que je suis aujourd'hui Et voilà, c'est pour ça que j'ai démarré ce travail.
On va continuer à en parler. Et Constance Rivière, moi j'entends souvent, parce que l'expo c'est banlieue chérie, mais j'entends régulièrement l'expression, pas seulement en parlant des banlieues parisiennes, mais de toutes les banlieues, je vais au quartier, je suis au quartier. Votre exposition, elle débute avec une explication sémantique que j'aime beaucoup, à laquelle je n'avais jamais pensé. Banlieue, ça vient de à une lieu du banc, et d'où l'expression ensuite mettre au banc, c'est ça ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le fait d'avoir choisi le terme banlieue et qui s'est installé en français a une vraie signification qui est politique. Parce qu'à une lieue du banc, c'est toute la zone qui est sous la protection, mais donc aussi sous le contrôle du centre. Et le fait que ce mot-là se soit installé dans le vocabulaire dit bien que le rapport de la ville et de Paris particulièrement à sa périphérie n'est pas qu'un rapport géographique, mais inclut aussi des logiques de domination et de pouvoir.
Ouais,
et je pense que si on n'a pas ça en tête, on ne peut pas comprendre aussi toutes les connotations, les représentations qui ont pu s'installer.
Mais alors, ce qu'on découvre aussi au tout début de l'exposition, c'est que ces banlieues, alors en l'occurrence, là, pour le coup, je parle des banlieues parisiennes, ça a été au départ... on appelle ça la banlieue verte, c'est-à-dire des lieux de villégiature, on y a les petits jardins, et puis ça devient quoi ? Ça devient un lieu pour la bourgeoisie, la banlieue bleue, on dit un peu, c'est ça ? Et ça prend du temps avant que ça devienne, avec l'imagerie qu'on a aujourd'hui, de la banlieue à la périphérie de Paris.
Alors en fait, c'est un peu tout en même temps. C'est-à-dire qu'à la même époque coexiste la banlieue verte comme lieu de villégiature, qui est aussi d'ailleurs un territoire mémoire de ces banlieues. Parce que là où les peintres Monet allaient se promener pour prendre des photos, c'est là où se trouvent aujourd'hui les banlieues. Et on ne comprend pas comment vivent les habitants aujourd'hui si on cherche à les couper de manière comme ça un peu brutale du passé du territoire sur lequel ils sont. Mais on a aussi à peu près à la même époque la zone avec des bidonvilles là où se situe le périphérique, les balles des barrières qui sont des lieux de fête, et puis on a plein d'autres couleurs. Il y a la banlieue noire, la banlieue industrielle après la guerre, il y a la banlieue rouge. Politique, communiste, et toutes ces couleurs-là de la banlieue, en réalité, elles continuent à coexister à travers le temps, et le mot banlieue, il cherche dans l'imaginaire, à unifier une très 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 grande diversité de ces territoires.
On va parler de la diversité des territoires, lieu de vie, lieu de lutte, de créativité aussi. Les quartiers, ils nous définissent. C'est un lieu de l'intime, un lieu qui participe à notre identité.
France Inter.
Moi, ce que j'aime dans la rue, c'est qu'il y a l'ambiance de la rue.
Grand bien vous fasse.
Les gens, les habitants, toutes les personnes gentilles. C'est comme si on était tous une famille.
Eva Rock.
Et oui, un quartier, c'est aussi une famille. Comme le raconte cette petite fille qui vit rue d'Aubagne à Marseille, elle est l'une des témoins d'un documentaire intitulé « Ma rue, couche-toi là ». La vie de quartier en 2025, c'est notre sujet du jour en présence de Constance Rivière, directrice générale du Palais de la Porte Dorée, de Marvin Bonheur, photographe, et d'Adrien Bels, auteur. Adrien Bels et Marvin Bonheur, vous nous l'avez un peu dit, mais Adrien, vous avez déjà répondu à la question. Marvin, les gens du quartier, ça forme une famille selon vous aussi ?
Oui, ça forme une famille, en tout cas pour mon expérience à moi, où clairement c'était une famille parce que mes voisins, mes amis, le plus gros souvenir que j'ai, c'est que les parents de mes amis étaient comme des oncles et des tantes pour moi, et que quand je faisais une bêtise par exemple... Ils avaient le droit, et moi je partais en courant surtout, parce que je me disais c'était comme si j'avais mon oncle, ma tante qui pouvait me voir. Au pire, ils me disaient rien, mais ils le disaient à mes parents après. Donc il y avait aussi ce rapport où tout le monde savait tout ce qui se passait, parce qu'il y avait un peu ce bouche-à-oreille qui était très rapide en quartier. Donc oui, c'est un peu comme le fonctionnement d'une famille, ouais, clairement.
Adrien Bels, en vous lisant, l'appartenance au quartier, elle semble déterminante. C'est une façon d'affirmer aussi son identité. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit cadeau ? Je ne vous avais pas prévenu, donc vous avez le droit de me dire non. Mmh. Mais j'aurais bien aimé que vous nous lisiez la première page de votre roman « Cinq dans tes yeux ». Parce qu'il y a toutes les expressions, ce sens de la formule que vous avez, et je trouve que ça raconte assez bien tout ça.
D'accord. Sur ces hauteurs de Marseille, les bars branchés et les boulangeries bieux sont apparus aussi subitement qu'une poussée d'herpès. La journée, le venant se balade ici comme un beau-père qui sort de la chambre de ta mère en caleçon. Aujourd'hui, tout le monde dit « les bobos », mais nous, quand on était ados, on les appelait « les venants ». Cassim avait sorti ça un soir, vers 2h du mat. On était au panier, sur notre banc en bois de la place des Moulins. On tombait des Heineken, on tirait sur des pétards. Un grand blond qui venait d'acheter une des maisons du quartier s'est ramené devant nous, torse nu, en claquette Bermuda. Il avait la tête du mec qui a pris la confiance. Il nous a demandé, avec une voix qui voulait faire copain, copain, « Salut les gars, vous auriez pas une ou deux clopes à dépanner ?» Jamel lui a d'abord répondu « Une ou deux ?» Puis Cassie m'a levé les yeux vers lui et il a dit « Regarde-le-moi, ce venant, avec sa gueule d'héritier. »
Merci beaucoup, merci. J'adore en fait ce terme de venant. Mm-hmm. Comment il vous est venu ? C'est un terme que vous avez vraiment entendu ?
C'est un terme dakarois.
Dakarois ?
Ouais, ma femme est sénégalaise. Et en fait, les venants, c'est ceux qui arrivent d'Europe. Il y a une notion tout de suite de pouvoir financier. C'est ça qui marche bien avec les venants marseillais. C'est que c'est une nouvelle immigration. Attention, moi, je ne suis pas du tout dans le... La gentrification, c'est vraiment un truc à prendre avec des pincettes.
On va en reparler, oui.
Mais voilà, il arrive avec un pouvoir économique.
Oui. Mmh. C'est venant, cette expression, on aurait pu l'entendre et la voir dans l'exposition, Constance Rivière.
Je la découvre, mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle vient travailler la question des circulations et aussi plus généralement la question du vocabulaire, parce que on voit bien à travers les mots qu'on utilise, qu'on répète, qu'on crée, qu'on agit dans le réel en réalité, qu'on dit quelque chose du monde, on le comprend, mais en le comprenant, on fait émerger des réalités sociales, celles que vous décrivez avec les venants, qui s'opposent à celles dont on parle nous, avec ce qu'on appelle les migrants, ouais, comme des personnes qui seraient sans attache, avec une connotation presque inverse à celle qui est dans le terme venant, et sans doute, derrière chacun de ces termes, des réalités hyper différentes. Et le mot, à la fois, il révèle, et parfois, le mot, il enferme.
Oui, tout à fait. Mais après, je me suis dit, en fait, on pourrait être tous des venants à un moment donné. On bouge de quartier. Marvin Bonheur, j'imagine que vous avez été venant dans les quartiers de Paris quand vous avez déménagé.
Après, j'étais le banlieusard, quoi.
Mais quand vous dites ça, c'est que vous aviez l'impression qu'on vous percevait comme ça et vous avez entendu des réflexions qui vous faisaient penser ça, ou même vous aviez ça en vous.
Ah non, je l'avais clairement en moi. Déjà, on me le faisait comprendre. Je l'ai entendu, évidemment. Rien qu'au travail, j'ai commencé à travailler à Paris à l'âge de 21 ans. Dans mes premiers boulots, jusqu'à il y a encore pas longtemps, on m'appelait le banlieusard.
Le banlieusard.
C'était mon surnom, parce que quand je me présentais au début, t'habites où ? Ben, j'ai grandi dans le 9-3. Ah, t'es du 9-3, banlieusard. Et après, moi-même, c'est un constat que j'ai pu faire très vite, parce que effectivement, je voyais bien qu'il y avait un décalage culturel presque. Hein. C'est pour ça que j'aime bien dire que j'ai grandi à 45 minutes de Paris, du centre-ville, et pourtant j'ai l'impression d'avoir grandi limite dans un autre pays, parce qu'on a tellement de cultures, une culture qui diffère sur tellement de points.
Mais même sur la langue, c'est ça ?
Ah ouais, des expressions parfois que je pouvais avoir et mes collègues de travail me regardaient, genre, ça veut dire quoi ça ? Et je me disais, mais attends, tu connais pas ce mot ? Et je me rendais compte que c'était un mot qui venait notamment des différentes diasporas qu'il peut y avoir dans les quartiers suite à l'immigration, ou à des communautés, je pense par exemple aux gens au peuple du voyage. Les gens du voyage ont ramené énormément d'influence dans le langage, je pense beaucoup du côté du 94. Donc c'est des expressions qu'on peut avoir, hein, futal, c'est un truc un peu plus cliché que je peux avoir par exemple, mais je me rappelle que moi-même j'ai découvert des mots dans mon enfance que encore à Paris pendant longtemps les gens ne connaissaient pas.
Un gadjo.
Ça c'est clairement le sud. Et je vois vraiment le
sud. Alors Adrien, mais ne plaisantez pas, mais moi qui viens du sud, donc je sais que des fois j'utilise des mots, mais j'ai totalement oublié en fait que ce sont des mots du sud. Pour moi c'est dans le vocabulaire classique. Et par exemple un mot que vous utilisez au bout d'un moment, vous dites pégé, la ville de Marseille, elle vous pègue au doigt comme un gâteau tunisien. Et est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que pégé ? Parce que moi, je pense qu'il y a trois quarts des auditeurs et auditrices qui ne savent pas, en fait.
Moi, je ne sais pas.
C'est quelque chose qui te colle, qui te colle au doigt. Ouais.
Et pourquoi vous dites que ça vous colle au doigt, cette ville de Marseille ?
Parce qu'on n'arrive pas, à en partir. On n'arrive pas à en partir. C'est-à-dire que Marseille, c'est une ville qui, à la fois, te porte. On le voit, hein, c'est une ville qui porte énormément de gens, de rappeurs. C'est une ville qui fait un peu moins d'un million d'habitants, avec énormément de rappeurs qui tiennent la place. Même pas que des rappeurs, hein, des écrivains, des cinéastes. Et c'est une ville qui à la fois te porte, avec sa mythologie, avec tout ce qu'elle porte de mythologique. D'ailleurs, même la création de Marseille était faite sur un mythe. Et puis, en même temps, elle t'enferme aussi.
Ouais.
Donc, on te dit, ouais, et puis les Marseillais disent, ouais, mais on est toujours le Marseillais de service, mais en même temps, on joue ça. Mmh. Donc, il y a un côté où, voilà, c'est une ville qui tourne le dos à la France aussi, un peu comme ça, avec toute cette barrière montagneuse et toutes ces cités. Alors, nous, on ne dit pas les banlieues, donc... Vraiment, les banlieues marseillais sont intégrés à Marseille. Et d'ailleurs...
Oui, on dit quartier nord. On dit quartier nord, les quartiers nord.
Ouais. J'ai entendu une expression il n'y a pas longtemps d'un jeune, parce que j'ai fait passer un casting là, pour un court-métrage. Il y a un jeune qui m'a dit « Le nord, c'est la fabrique ». Le nord, c'est la fabrique. C'est comme dire, en fait, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la fabrique. C'est-à-dire, c'est la fabrique des imaginaires, c'est la fabrique des langages, c'est la fabrique culturelle. Aujourd'hui, tout ce qui sort de Marseille, aujourd'hui, vraiment, ça vient du Nord. Ça vient vraiment des quartiers Nord. On voit Jul, les rappeurs, Soprano, tout, même les nouveaux comédiens, les trucs. Là, j'ai vu un film, il n'y a pas longtemps, de Prince Iyakar, là, qu'il faut aller voir, d'ailleurs, qui s'appelle Les Filles Désirs, qui sort dans pas longtemps. Et c'est pareil, c'est des jeunes de quartier. Et c'est là qu'en fait, tu te dis, c'est eux qui créent.
Ouais.
C'est eux qui créent et c'est la fabrique, vraiment.
Et alors cette création, on le voit dans votre exposition, hein, Constance Rivière, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'œuvres artistiques qui viennent des banlieues. On va en redire un mot tout à l'heure, mais c'est extrêmement important, cette vitalité créatrice. Bah,
c'est même le cœur du projet de l'exposition. Quand on fait Banlieue Chérie, la première chose qu'on se dit, c'est comment est-ce qu'on arrive à montrer à quel point des cultures dans tous les domaines, ce que vous disiez, le cinéma, la littérature, la musique, sont nées en banlieue et sont devenues aujourd'hui des objets de fierté nationale. Et si on arrive à réinverser, à retrouver le sens de tous ces artistes immenses qui ont grandi en banlieue, et alors là, on les appelle plus les banlieusards, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça devient des stars, c'est des stars nationales et il y a une forme d'appropriation.
Ouais. Et d'invisibilité aussi des quartiers et de ce qu'ils ont été avant.
En tout cas, ils ne sont plus racontés comme eux-mêmes, par ailleurs, se racontent. Et donc, la dernière partie de l'exposition, c'est banlieue centrale, parce que c'est là que se réinvente en fait une centralité du récit national.
Ouais. Et à propos d'art, donc il y a vos photos, Marvin Bonheur, qui sont exposées, enfin une partie de vos photos, dont une. Alors, il faut qu'on en parle parce qu'elle vous colle un peu à la peau, cette photo. Est-ce que vous pourriez nous la décrire? C'est un camion de glace, c'est ça?
Alors oui, c'est un camion de glace vu de côté, donc avec la grosse écriture années 90, glace en rouge, avec deux jeunes de dos, un qui est plutôt blanc de peau et l'autre noir de peau. Donc on voit aussi du coup cette notion de diversité, on voit cette notion de jeunesse aussi, on peut voir de dos qui sont assez jeunes, ils sont habillés en survêtements. On voit en arrière-plan un bout d'immeuble, donc on comprend un peu aussi l'environnement dans lequel on se trouve. En fait, il y a assez d'informations dans cette photographie pour raconter justement ce que moi j'ai voulu raconter dans cette prise de vue qui était à un moment lambda pour moi, dans un quartier populaire, notamment celui des 3000, et qui finalement s'est avéré être une des photos qui m'a le plus suivi ces 10 dernières années, parce qu'elle représente aussi l'enfance de beaucoup d'autres jeunes, et pas forcément de quartier, voire pas forcément même de France. Donc cette photo, elle a un impact...
C'est votre tube, quoi.
Ouais, elle a un impact depuis toujours. J'ai pas prévu le coup quand je l'ai prise, je me suis pas rendu compte à quel point elle pouvait... parler à autant de monde, mais après coup, j'ai vite compris que oui, c'est une photographie qui raconte la jeunesse de beaucoup de personnes, et j'en suis fier.
Constance Rivière ?
Non, cette photo, elle a une chose absolument incroyable, elle résume à la fois l'exposition, mais elle résume ce qu'est un musée aujourd'hui pour moi, c'est qu'à travers une œuvre d'art, parce qu'elle est quand même très très belle, c'est la première chose qui marque, ça touche à l'intime, et à travers une expérience hyper intime, ça devient universel. Et moi, je pense qu'un musée, c'est un endroit dans lequel on doit pouvoir montrer et raconter des histoires très singulières, très artistiques, et qui, tout d'un coup, vont venir toucher chaque visiteur à un endroit qui va réveiller sa mémoire, sa conscience et ouvrir son regard. Et il y a tout ça dans cette photo. Oui, vraiment, c'est une fierté de l'avoir au musée.
Oui, et puis il y a cette mixité sociale dont vous parliez. Adrien Belz, vous vouliez réagir ?
Non, je disais que j'ai vu une photo de Marvin en venant là, parce que j'ai regardé un petit peu. Il y a une photo où il y a un homme avec des tatouages sur les trucs et il y a un chien qui dépasse. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est la douceur. C'est-à-dire de tous les trucs, de clichés, de banlieue, de mecs qui font peur, d'un chien qui en plus est fait flipper aussi.
C'est un chiot en plus.
Qui est quand même...
C'est
sont des staffs, des trucs où on se dit... Et en fait, il dégage de ce truc une grande douceur et aussi un rapport charnel. C'est-à-dire, les quartiers, c'est encore des endroits où on se touche. C'est-à-dire, et je ne dis pas... tout le monde se touche, c'est-à-dire on
alors
est sur un banc.
Alors surtout à Marseille.
Voilà, mais... on est dans un bus, on se touche, on est et en fait c'est beaucoup un rapport. Je trouve il y a un rapport charnel là-dedans. C'est un endroit où les gens voilà sont encore ensemble. Quoi.
Oui, mais j'aime beaucoup cette image que vous donnez parce qu'on sent que c'est des corps en fait hein, qui sont inscrits dans la ville. Ces corps aussi, c'est des corps dans la violence parce que je voudrais pas qu'on ait une image trop idyllique. Hein, et dans l'exposition, on le voit très bien. Mais Marvin Bonheur, c'est ces banlieues. Et ces quartiers, de partout en France, c'est aussi de la violence. C'est un territoire qu'on essaye de quitter parce qu'on n'arrive pas à se construire à l'intérieur, etc.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai toujours été très transparent dans mon travail. Et dès que j'ai commencé ce travail, il y a 11 ans maintenant, j'ai eu cette envie de nuance. Quand j'ai tout démarré, tout au début de cette série, Alzheimer et donc la trilogie, mon but, c'était de apporter quelque chose de nouveau en imagerie sur les quartiers populaires, mais j'avais pas envie forcément de faire quelque chose d'opposé à ce que j'ai toujours vu dans mon enfance, c'est-à-dire des faits divers et des sujets autour du côté négatif des quartiers populaires. Et en même temps, ce que je trouve le plus important à raconter des quartiers populaires, et pas que dans le 93, mais tous les quartiers que je documente aujourd'hui, c'est de cette nuance entre justement violence, dureté et douceur, amour et partage. Et c'est cette photographie, une de mes préférées aussi d'ailleurs, pour moi, elle représente très bien ce que je veux illustrer.
Celle avec le chien, ouais.
C'est une photographie que j'aime représenter parce que justement, le fait d'avoir ces codes d'un homme noir tatoué en survêtement, il me semble qu'il a une cagoule ou une capuche, mais il a toute un esthétisme qui évoque ce côté négatif de ce qu'on imagine des quartiers populaires, et en même temps cette douceur avec ce chien,
avec
et cette
ce
scène
chien,
s'est déroulée devant moi de manière anodine. Moi j'étais avec mes potes et j'ai pris cette photo parce que pour moi elle illustre complètement cette nuance-là qu'on trouve en fait presque tout le temps dans les quartiers populaires.
France Inter, grand bien vous fasse, Eva Rock.
Non, il y a tout maintenant ici. Noir, arabe, blanc, chinois, c'est tout. La cosmopolitanie, comme ils disent, prend autre chose, quoi. Mais voilà. Avant, c'était majoritairement des gitans, tu quoi. Et que des gitans ici.
Le monsieur, il est malade. Donc son arbre est en train de périr. Alors je suis venue lui mettre les antifourmis. Bon, mais déjà, les fourmis, il y en a plus, déjà ça. Que je viens de mettre de la terre et que je viens de les tailler. Il était beau, ce rosier, avant. Toujours pareil, c'est comme tout. Hein. Tout se dégrade.
En train de construire encore un immeuble.
Au lieu de mettre un jardin chez nous, ils ont construit un immeuble.
Ils ont construit.
À 7h du matin, on a le bruit.
Moi, je pense qu'ils vont tout raser dans le quartier. Il n'y aura plus l'ancienne Belle de Mai. Il y aura une nouvelle Belle de Mai avec des tours, d'ailleurs, comme là. Il y aura des tours et voilà, il y aura d'autres gens du quartier qui vont habiter là. Mais il n'y aura plus rien pour les vrais gens de la Belle de Mai.
Extrait du documentaire Péril sur la ville, un film de Philippe Pujol diffusé sur Arte et qui met en lumière le quartier de Saint-Mauron à Marseille. Et oui, les quartiers changent, se transforment, se vident, se remplissent de nouveau. Constance Rivière, vous vouliez réagir sur la conversation qu'on a commencé à entamer sur la notion de violence aussi dans les banlieues. Alors, dans les quartiers, pardon.
Ouais, je voulais surtout réagir en fait au terme que Marvin a employé de douceur, parce que l'exposition Banlieue chérie, avec cet adjectif qu'on a choisi à la fois pour...
Qui est étonnant d'ailleurs.
Pour nous amener à poser un regard qui chérit la banlieue, mais aussi comme une injonction, parce que quand on dit en préparant une expo, on va parler des banlieues chéries, bah, ça dit quelque chose aussi du propos. Mais ce terme de douceur, pour moi, il est peut-être une des choses qui explique le mieux le succès qu'a l'exposition. On n'a jamais eu autant de visiteurs au musée. Hier, on a passé les 100 000 visiteurs pour une expo temporaire chez nous, c'est énorme. Et surtout, la moitié des visiteurs ont entre 18 et 25 ans.
Ouais.
Donc c'est des jeunes qui viennent beaucoup d'Île-de-France, d'une extrêmement grande diversité, qui viennent entre potes, en couple, tout seul. Enfin, quand on se balade dans le musée, c'est une exposition qui se vit aussi, on le voit beaucoup. Et il y a dans l'exposition, au milieu, la reconstitution d'un appartement, d'une tour détruite dans la banlieue de Bordeaux. Et dans l'appartement, il y a un grand canapé très confortable et une énorme peluche tigre. Et le nombre de fois où je n'ai pas osé prendre la photo qui pourrait presque faire écho à ce que Marvin disait tout à l'heure, de jeunes avec leurs casquettes, leurs survettes, 18-20 ans, qui sont dans le canapé en train d'enlacer la peluche tigre et de faire leur message, de regarder les réseaux sociaux en même temps, etc. Et donc je trouve que tout ça, cette image-là, du jeune dans le canapé avec la peluche dans les bras, ça résume l'expo.
Je vous confirme deux choses. Une chose que je ne devrais pas dire, mais je vais quand même le dire, c'est qu'une des personnes qui prépare l'émission avec nous, pour pas la nommer, Jessica Belgique, a craqué sur le fameux tigre en peluche et s'est précipitée pour faire une photo avec le fameux tigre en peluche qui lui rappelait son enfance. Et surtout, j'ai entendu trois jeunes femmes qui, a priori, c'était la première fois qu'elles venaient dans un musée, qu'elles venaient découvrir l'exposition. Et elles regardaient le moindre objet de cet appartement et elles essayaient de retrouver ce qui pouvait appartenir à l'appartement de leurs parents, ce qu'elles y retrouvaient, ce qu'elles n'y retrouvaient pas. Il y a un sentiment d'appartenance qui est très fort. Je pense qu'on pourrait le faire avec le panier, sans aucun problème, les intérieurs du panier. J'ai l'impression aussi que ces quartiers, ils se vivent dans les appartements et aux fenêtres. Mmh. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Adrien, mais Marseille, c'est aussi, on a les conversations par les fenêtres, on regarde les gens par les fenêtres. Vous en parlez beaucoup dans votre premier roman.
Oui, oui, l'urbanisme, c'est très fort. C'est très fort sur ce que ça peut, sur comment ça peut influencer à la fois une littérature, mais aussi une musique. Hein. C'est-à-dire que 5 dans tes yeux, c'est aussi un hommage à ce que vous dites, c'est-à-dire à des odeurs, à des sensations, à une promiscuité, à le linge. Et puis après, il y a aussi, c'est vrai que tout à l'heure, tout à l'heure, Marvin, il parlait du 9-3, du 9-4, des gitans. Ce qui est important aussi de rappeler, c'est de dire que on met en fait souvent les banlieues comme un truc un peu homogène, ouais. Alors qu'en réalité, chaque quartier a aussi son délire, sa manière de parler, a ses expressions, et chaque quartier a sa musique. C'est-à-dire là, en ce moment, par exemple, moi, je travaille sur une BD sur le rap marseillais, et c'est vrai qu'on se rend compte que, par exemple, la cité de Félix Piat, qui a sorti des groupes comme Le Troisième Œil, ou alors on a entendu Soprano, est influencé aussi par la musique comorienne, par une manière de parler, mais aussi par un urbanisme, c'est-à-dire le ciment, le périph, c'est-à-dire Joule, par exemple, il est des quartiers sud. Joule, c'est à la fois le cimetière Saint-Pierre, donc une grande mélancolie, Sakakini, les hôpitaux de la Timone, mais aussi quartier sud avec tout cette autoroute sud. Donc c'est à la fois une accélération du rythme, mais aussi une grande mélancolie. On dit c'est Joule, c'est une mélancolie festive. Donc c'est vrai que les quartiers conditionne beaucoup ta manière d'écrire ou ta manière d'être, ouais. Mais au même titre que des pays, ils ont aussi, alors c'est des fois très fin, mais ils ont aussi chacun leur particularisme.
Ouais. Et Marvin Bonheur, d'ailleurs, à ce sujet-là, sur l'urbanisme, dans l'exposition, on voit ces grandes tours, et notamment ces tours qui sont abattues, qui est à la fois un spectacle assez fascinant, un peu sidérant, mais moi je me suis dit, est-ce que vous avez vu des immeubles dans lesquels vous avez vécu être abattus comme cela ? Ou que vous connaissiez dans vos quartiers.
Bien sûr. Alors moi, j'ai pas vu d'immeubles sous explosion comme ouais. Certains immeubles ou bars ont pu être explosés dans les années début 2000, parce que maintenant il me semble que c'est plus légal en France. C'est désamianté progressivement par des machines. Je les ai vues, les premières que j'ai vues, j'y habitais encore en fait. Les premières tours qui sont tombées chez nous, donc au 3000, c'est une cité qu'on appelait les 4 tours. Et c'est d'ailleurs la tour de mon meilleur ami d'enfance qui habitait au 13e étage où on voyait la tour Eiffel. Donc j'ai énormément de souvenirs dans sa chambre où on était posé à jouer à la console, etc. Et c'est une des premières tours qui a été démolie. Je devais avoir, 17, 18 ans.
Et qu'est-ce que vous ressentez dans
ça a été extrêmement violent, ouais. Parce que moi, j'ai passé énormément de temps dans cette tour, sachant qu'il y a beaucoup d'appartements qui étaient condamnés, donc fermés avec des étages brûlés ou... Donc c'était pas forcément très positif finalement. Cet immeuble était délabré, il y avait des tas de graffitis, du pipi.
Mais etc. C'était le vôtre, quoi.
Mais c'était mes souvenirs. Ouais, et c'est là où j'ai vraiment compris aussi, et je pense que cette tour fait partie des déclencheurs de mon travail artistique, c'est que je me suis dit aussi, quand bien même que ce soit pas forcément esthétiquement beau ou vendable à des personnes qui n'en viennent pas, moi, j'y suis attaché, c'est mon enfance, c'est là où j'ai des souvenirs, c'est là où j'ai eu mon premier bisou, par exemple, la première fois que j'ai embrassé une fille, c'était dans cette tour-là. Mon meilleur ami, il vivait, il était laotien, j'ai mangé laotien chez sa mère, du coup, après l'école, j'ai des souvenirs incroyables. Et on l'a rasé quand j'avais 18 ans. Il n'y a jamais eu de photographie de ces tours-là, parce que j'en faisais pas à l'époque. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je me suis aussi mis à la photographie. Ouais. C'est que je me suis dit, on nous fait vivre dans des espaces qui sont abandonnés, qu'on abandonne nous-mêmes par la suite, qui sont en état presque de ruine à un moment donné. Et que même au moment de la démolition, on n'archive pas ces, ces lieux-là. Et c'est aussi cette violence-là. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai été très touché de l'exposition de Banlieue Chérie. Parce que ce que je reproche le plus aussi de notre génération aujourd'hui, c'est d'avoir passé presque 50, voire plus d'années d'abandon des quartiers populaires. Et d'en plus de ça, d'aujourd'hui, de parler de Grand Paris et de rénover et donc faire quelque chose de nouveau, ce qui est en soi peut-être quelque chose de bien. Mais de ne pas forcément archiver. Et c'est comme une double peine, c'est-à-dire qu'on ne vous regarde pas pendant des années. Et ensuite, on efface vos souvenirs comme si vos souvenirs aussi n'était pas aussi important.
Oui. Constance Rivière, moi j'ai eu l'impression en voyant ces images de destruction de tours, notamment dans l'exposition, qu'à chaque étage qui était détruit, c'était comme une strate de notre mémoire qui disparaissait. Est-ce que, alors, je ne sais pas comment vous l'avez construite l'exposition, mais vous voyez cette difficulté d'invisibilité d'absence de mémoire de ces lieux.
Ce qui est terrible, c'est... La rapidité avec laquelle on transforme des territoires comme si ces transformations urbaines n'avaient aucun lien avec la vie des personnes qui les ont habitées. L'exposition, elle commence dans un genre très différent, avec un extrait du film de Verneuil, Mélodie en sous-sol, où Jean Gabin a passé beaucoup de temps en prison et il revient dans sa ville, Sarcelles.
Et sa cabane, elle est détruite.
Et il arrive et puis il voit toutes ses tours et il demande comme ça aux ouvriers, mais alors où est la rue Théophile Gautier? Il essaye de rentrer chez lui et on lui dit, ah non, anciennement Théophile Gautier. Et puis il arrive au service du pilotage. Et derrière des tours, la seule chose qui reste, c'est son petit pavillon qui n'a pas été détruit puisqu'il n'était pas là, au milieu d'un ensemble urbain dans lequel il ne reconnaît plus rien.
Ouais.
Et ça, ne plus rien reconnaître de son enfance, de son passé, c'est quelque chose qui forcément crée une déchirure. Et par rapport à ce que Marvin disait sur l'exposition, moi je pense que les musées, ils n'ont de sens que s'ils essayent de réparer les tissus comme ça, un peu abîmés de nos mémoires, en faisant de la place à chacun pour s'y retrouver. Quoi.
Oui, et le panier, par exemple, Adrien Besse, il a énormément changé. Vous parliez de gentrification de ce quartier. Mais la question que je me suis posée, c'est, au fond, ok, le quartier change, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Il n'empêche que ça fait encore quartier pour vous? Ou c'est une autre histoire qui se crée?
Tout à l'heure, il parlait d'enfants. Il disait... Mon voisin, Marvin, il disait, mon voisin, il veillait sur moi, c'était comme une partie de ma famille. Ce que je dis aux gens, c'est que déjà, aux nouveaux habitants du panier, ce que je dis, la grande différence, c'est la présence des enfants dans les rues.
Ouais.
Vraiment, ça, c'est le jour
et
l'enfant
à la nuit.
A disparu des rues, mais vraiment, le quartier du panier, c'était un quartier qui était un peu abrité, parce qu'il était un peu en hauteur, donc... on n'était pas au milieu de la ville. Et vraiment, c'est la grande différence, c'est ça. C'est l'âme du panier, c'était vraiment les gamins. Et au même titre que dans la Casbah d'Alger, il y a des gamins. Mais
dans
ça veut dire,
villes,
ça veut dire que le voisin veille sur toi. Mais après, moi, je voudrais aussi reparler de la violence, parce que la violence à Marseille, elle est immense aussi.
Et elle est partout dans votre roman,
elle
d'ailleurs,
est partout,
à chaque page.
Et il y a vraiment à Marseille, alors moi, j'habitais dans une rue, enfin, mes parents habitaient dans une rue qui s'appelle la rue Labadie. Et la rue Labadie, dans la rue Labadie, il y avait un îlot qui s'appelait l'îlot Labadie, qui était tenu par un marchand de sommeil et dans laquelle habitait la plus grande communauté comorienne de Marseille et qui a été complètement relogée dans les quartiers nord de Marseille. Les Comoriens, c'était vraiment la population la plus silencieuse de Marseille. Elle a été découverte un peu avec le drame d'Ibrahim Ali, qui a été tué par un colleur d'affiche du Front National avec une balle dans le dos quand même. Et on l'a découvert un peu comme ça. Déjà dans la violence. Et après, aujourd'hui, on peut voir ce qui se passe avec la communauté comorienne dans les quartiers nord de Marseille. Il n'y a pas que des drames, il n'y a pas que de la violence. Mais voilà, il y a aussi des jeunes qui sont tombés dans la violence. Mais à Marseille, ce qui est vraiment, ce qui caractérise le mieux la violence à Marseille, c'est le titre d'Ayam, Ombre et Lumière. C'est vraiment une ville de contraste où tout peut se passer à n'importe quel moment. Dans le titre Bande organisée, SCH, il dit ACDC, guitarisé. Oh, je pense que la moitié de la France a dansé, ou même les trois quarts de la France a dansé sur ce morceau sans savoir ce que c'est guitarisé. Ouais. Guitarisé, c'est un hommage à la Kalachnikov. Donc on peut se poser la question de savoir si guitarisé, c'est un hommage à la Kalachnikov, ou si c'est transformer une arme de guerre en un instrument de musique.
Ouais, complètement.
Voilà.
Grand bien vous fasse. Eva Rock sur France Inter.
Vers les 10h du matin, tu sais, quand le quartier, il était un peu bien réveillé, tu avais le musicien qui arrivait comme ça. Et là, c'était comme qui dirait un moment magique. Tu avais toutes les fenêtres qui s'ouvraient comme ça. Tout le monde y se mettait à la fenêtre, tu sais. Et tout le monde y l'envoyait des pièces. Alors ça te tombait comme ça en pluie sur le sol. Ça te faisait comme un concert de cliquetis. Mais... Vous savez, c'est comme dans tous les quartiers. Il y en a au moins toujours une qui mouline. Hein. Dites-donc, le musicien, vous pouvez pas jouer un peu moins fort, non? C'est jeudi aujourd'hui, il y a mon petit qui dort, hein?
J'étais obligée de vous faire entendre une niçoise en tant que niçoise. En l'occurrence, Noëlle Pernat dans le rôle de Mado la niçoise qui raconte à quel point tout se passe à la fenêtre aussi dans le Vieux-Nice. Nous sommes sur le point de refermer cette émission et Constance Rivière, c'est le moment où je dois vous révéler ce qui s'est passé. Donc, quand j'ai visité l'exposition avec toute l'équipe de Grand Bien Vous Fasse, banlieue chérie, j'ai pleuré devant un mur, le mur d'expression libre. C'est un mur sur lequel sont collés des centaines de messages des visiteurs qui ont complété la phrase débutant par ces mots « Dans ma banlieue rêvée, je peux ». Et on a vu des jeunes s'appliquer à écrire leurs vœux, leurs colères, leurs espoirs. Et donc j'ai lu parmi tous ces messages, dans ma banlieue rêvée, je peux être acceptée comme je suis immigrée, marcher librement, peu importe l'heure, sans flipper, sans me cacher. Je peux avoir des rêves aussi grands que le monde et avoir les mêmes chances que les autres. Je peux aller à l'école à dos de poney. Je peux me poser au quartier, délire avec mes potes autour d'une petite mante, voir les mamans heureuses et que les jeunes apprécient la culture. Comment vous réagissez quand vous découvrez tous ces mots ? Je crois qu'il y en a eu plus de 6000, c'est ça ?
Ouais, c'est vraiment incroyable. On a eu plus de 6000 mots et les gens mettent d'où ils viennent. Donc, ouais. Il y a plus de 200 villes d'origine des personnes qui ont écrit ces petits mots. Parfois, c'est des dessins, d'ailleurs. J'en ajoute un, moi, qui m'a bouleversée. C'est dans ma banlieue rêvée. Je peux transformer le béton en poésie et l'ombre en lumière. Et c'est toute cette dualité-là, en quelque sorte, qui existe. On l'avait mis, au départ, dans une salle qui est plutôt pour les enfants, avec une table où
avec
on peut faire des
Legos,
construire sa ville. Je constate qu'il y a souvent des adultes qui sont assis sur ces toutes petites chaises d'enfants en train de jouer au Lego et de retrouver leur enfance. Et ces mots, ils sont déposés par énormément de gens différents. Et nous, on a été tellement touchés à la fois par ce que ça racontait. L'idée aussi que le musée est un lieu où on peut s'exprimer. On l'a dit, se vivre dans l'appartement. Il y a un studio de musique où on peut danser, dormir, s'installer, bouquiner, etc. Et puis, cet espace-là et ces milliers de mots, on va, je pense, essayer de les faire rentrer dans nos collections, qui sont des collections nationales. Et si ça rentre dans les collections, après, ça devient inaliénable. Oui. Ça devient le patrimoine national, comme l'est la Joconde. Et je pense que tous ces petits mots qui racontent la banlieue rêvée, ils mériteraient cette place.
Et l'exposition, elle pourrait être itinérante? Elle pourrait aller s'exporter dans d'autres villes en France?
Alors, l'exposition, déjà, elle a été conçue comme une exposition avec une vingtaine de programmation, exposition, capsule dans des villes de banlieue, parce que pour nous, c'était pas possible de faire cette exposition, on l'a dit beaucoup, sans artistes comme Marvin Bonheur et plein d'autres qui créent en banlieue ou à partir de la banlieue, mais aussi de pouvoir avoir des expositions sur site. Donc on a fait par exemple à Corbeil-Essonne, on a fait aussi à la Courneuve, dans un collège qui va ouvrir en septembre. Les commissaires de l'exposition et des artistes ont travaillé avec des élèves de CM2 qui vont rentrer dans ce collège et qui ont créé une exposition dans ce que sera leur future cité scolaire. Et on va les accompagner, ouais, pendant 3 ans ensuite. L'idée, c'est que le musée, ça devienne un lieu dans lequel tout le monde se sente bien. Vous disiez tout à l'heure, il y a des gens qui rentraient pour la première fois dans un musée, mais moi, c'est ça qui me fait pleurer, en fait. Si on arrive, nous, à dire un musée national, c'est un lieu dans lequel tout le monde doit pouvoir se sentir bien et y trouver un bout de son histoire. Et après, bah... Une fois que tu es rentré une fois dans un musée, tu vas dans n'importe quel musée, quoi. Ouais. Et là, on aura réussi quelque chose.
Tous les jours, on termine cette émission avec vos coups de cœur, chers invités, c'est-à-dire ce qui nous permettrait de poursuivre cette réflexion une fois qu'on aura quitté ce studio. Marine Bonheur, est-ce que notre conversation, elle vous a fait penser, je ne sais pas, à un livre, un film, une citation, un son ?
Alors, ça m'a fait penser à un local qui vient d'ouvrir dans le quartier où j'ai grandi, justement,
ouais,
qui s'appelle le 93 Lab. C'est un lab qui a été créé par l'atelier Avoc et Bastien Laurent, le fondateur de la marque. Et ils ont ouvert un espace qui est dédié au design, la mode, la photographie, tout ce qui tourne autour du design et de la mode.
Et on peut y aller.
Et vous pouvez y aller, ouais. C'est ouvert la semaine dernière. Ça fait 2 ans qu'ils sont en travaux. Et surtout, ils l'ont réouvert dans un ancien commissariat qui était un peu le commissariat problématique des 3000 à l'époque.
D'accord.
De ma jeunesse.
Donc c'est hyper symbolique.
D'ailleurs, l'immeuble au-dessus, on est très contents. Les mamans sont très contentes parce que les jeunes, déjà de l'immeuble, commencent à fréquenter le lieu. C'est un lieu ouvert à tous, tout le monde peut y aller librement.
On mettra les références sur la page de l'émission via l'application Radio France. Merci pour ce coup de cœur. Et vous, Constance Rivière?
Alors moi, mon coup de cœur, c'est un livre, et c'est un roman collectif, Le Retour du Roi de Djibril. Je dis ça en souriant, parce que quand on m'a demandé très spontanément, j'ai dit que c'était ça, mon coup de cœur, et j'avais qu'un des auteurs était Adrien Belz, qui est ici présent. Et c'est ce qui est absolument magnifique dans ce livre, c'est... cette idée d'un garçon qui revient, d'ailleurs c'est quelqu'un qui revient dans un lieu qu'il a déserté pendant longtemps, et c'est un conteur, c'est quelqu'un qui raconte des histoires et qui passe des nuits à raconter des histoires à ses potes, et c'est ces contes-là, écrits à plusieurs voix, qui ouvrent sur plein d'imaginaires et sur ses mémoires et l'oralité. Ouais. Donc bravo.
Votre nouvelle, elle est merveilleuse, Adrien, vraiment. Vous avez un coup de cœur, vous aussi, Adrien?
J'avais un peu Le Retour du Roi Djibril, mais du coup, je vais parler du film de Prince Iyakare qui s'appelle Les Filles Désirs, que j'ai vu en avant-première. Et j'en parle aussi parce que je connais un peu les comédiens qui jouent dedans. C'est vraiment un film sur la sexualité aussi dans les quartiers. Et aussi, je crois que la réalisatrice a perdu sa maison dans les incendies qui ont lieu à l'Estac. Donc solidarité aussi pour elle.
Voilà. Merci infiniment. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Et merci à toute l'équipe de Grand Bien Vous Fasse. Maria Pascal à la réalisation, Jessica Bagic, Anna Massardier, Noélia Filliol et Elina Garcia à la préparation. Et ce matin à Technique, il y avait Fabrice Desmas et Anne-Laure Cochet.